J'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de changer de boulot. Je vois ma femme, oh là là, elle est en train de froncer les sourcils. Je plaisante, chérie. J'ai décidé de changer de travail. J'ai une révélation. Je vais devenir producteur d'œufs. Je vais produire des œufs. Et donc, pour produire des œufs, il faut quoi? Il faut des poules, hein, poulettes. Il faut des poules pour produire des œufs. Et donc, je me suis dit, je vais commencer petit parce que, si vous voulez, entre un bureau où on gère des affaires et un poulailler, il y a tout un monde. Donc, je me suis dit, je vais acheter 3 poules et par la suite, je vais acheter un coq. Parce que vous savez que pour faire des poussins et reproduire, hein, ben, je vais pas vous faire de dessin, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que la petite graine arrive. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un petit d'un qui est là. Et donc, ça marche pas. Ah si. Et donc, j'ai acheté une première poule. Et je l'ai baptisée Obstinée. Et j'aurais même pu lui donner un deuxième prénom. Fatalitas. Non, c'est pas Maryse, celle-là. C'est pas moi, ça vient pas de moi. Hein. Ensuite, j'ai acheté une deuxième poule. Et je l'ai appelée Inquiète Kodak. Et ensuite, j'ai une troisième poule. Elle est active, elle est réveillée. Elle n'arrête pas de bouger. Mais le problème, c'est que j'aurais dit à ces poules-là, quand je les ai achetées, on a signé un contrat de travail. Et dans le contrat de travail, j'ai dit, vous êtes des poules pour produire des poussins. Et là, et comme je n'avais pas encore eu le coq, j'ai dit, attendez que le coq arrive. Et puis, Obstiné, ou Fatalitas, comme vous voulez. Vous avez vu le dessin animé Les Fous du Volant. Vous vous souvenez que dans Les Fous du Volant, il y avait un gars qui s'appelait Fatalitas. Et Fatalitas, il réessayait à chaque fois et puis il n'arrivait plus à avancer parce que le sort lui tombait dessus à chaque fois. Qui connaît ça? Les moins jeunes peut-être connaissent Les Fous du Volant. Et donc, un jour, j'arrive dans le poulailler. Je vais voir mes 3 petites poules. Et je vois la première, je vois Obstiné. Mais je lui dis, Obstiné, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de couver tes œufs? Le coq n'est pas encore arrivé dans la basse-cour. Ça sert à rien. Ça fait un mois, c'est 21 jours, hein, la couvaison. Ça fait un mois que tu couves. Et elle me regarde, elle me dit, je ne bougerai pas de ma place. Vous savez, c'est une poule dominatrice. Ça arrive, des poules dominatrices. Et ne faites aucune allusion, parce que je ne vais pas venir avec la jante féminine, hein, d'accord? Je pense qu'on ne va pas mettre ça sur le site, hein, parce que... Et Obstiné, elle me dit, c'est qui le patron ici? Ben, je dis, c'est moi. Non, non, Ali, je resterai, je suis sûr que des poussins vont venir. Et la deuxième, je vais voir un peu plus loin, et je lui montre l'œuf à Inquiète Kodak. Je lui montre l'œuf et je lui dis, c'est pas normal, Inquiète Kodak. Ça fait un mois que tu ponds, tu dois te poser des questions. Elle me dit, t'as raison. Je vais me poser la question. S'il y a de la stérilité dans cet œuf, c'est qu'il y a une raison. Et puis, la troisième, j'ai pas eu le temps de lui dire, elle était déjà debout. Et elle tournait dans la basse-cour. Et je vous le fais, allez. Parce que, entre nous, soit dit, vous verrez que cette prédication, vous en souviendrez encore longtemps. Je vous fais la poule. Et elle était réveillée et elle me disait, où est le coq? Où est le coq? Je dois être fécondé. Je le fais bien? Je fais la poule réveillée. Enfin bref. Mais en attendant, vous allez vous souvenir de ça. C'est comme ça que Jésus enseignait. Bon, et je suis sûr qu'il est en train de rigoler là. Parce que vous allez voir, En fait, en réalité, j'en ai une quatrième. Et je l'ai rebaptisée. C'est la première, obstinée. Obstinée parce que elle est devenue poule au pot. J'en avais marre. Elle n'obéissait pas, elle était obstinée. Et j'ai décidé. On la déplume. J'ai vu ça tout petit, je ne mangeais jamais les poules du poulailler de mon père parce que j'avais mal au cœur. Pendant des années, je n'ai pas su manger de la poule. Il n'y a que le coq que j'ai mangé. Quand j'étais petit, j'ai déjà raconté. Et quand j'étais petit, pour aller donner à manger aux poules, il fallait passer par le coq. Je me suis fait piquer les mollets et les fesses pendant des années. Et le jour où mon père l'a tué et que ma mère a fait un coq au vin, j'ai fait bonne chère. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Clairement, ça revient à la vision que j'ai reçue, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'avais partagée il y a 2 ou 3 semaines de ça. J'ai vu une vision où une poule était en train de couver un œuf et je savais que l'œuf était stérile, que l'œuf n'avait pas été fécondé. Et il y a cette parole qui est venue dans mon cœur qui disait « Pourquoi la poule couve-t-elle un œuf stérile ?» Et ça a travaillé mon cœur. Mais ça a travaillé mon cœur depuis, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je n'arriverai même pas à donner un autre message que celui-là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous devons nous poser la question à un moment donné sur notre vie. Est-ce que ma vie est stérile ou pas ? Est-ce que dans ma vie personnelle, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent. Le royaume de Dieu, Jésus a enseigné sur le royaume. Et à chaque fois dans le royaume de Dieu, que se passait-il ? À chaque fois, il dit multiplication. Il dit, ça doit changer. Quand tu rencontres le Seigneur dans ta vie, à un moment donné, tu dois te poser la question, est-ce que ça a changé depuis que j'ai rencontré le Seigneur ? Parce que si ça n'a pas changé, si ça n'a pas évolué, si aujourd'hui tu es en stagnation, pose-toi la question, est-ce qu'il y a eu fécondation à un moment donné ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose du royaume qui est venu en moi et qui fait qu'aujourd'hui que ça se multiplie ? Et là, on doit se poser la question. Et posez-vous la question ce matin. Où en êtes-vous dans votre vie ? Où en êtes-vous dans votre vie personnelle, dans votre vie spirituelle, dans votre vie familiale, peu importe, votre vie de boulot, peu importe. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous voyez des gens autour de vous qui sont intéressés par le Seigneur ? Posez-vous la question et vous allez voir qu'il y a une forme de stérilité que Dieu veut guérir. Il est écrit dans Genèse. Il dit d'abord à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras tes enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, t'es encore un, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. » Voyez que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme, en Éden, ils étaient dans une relation directe avec le Seigneur. Et ils n'avaient pas besoin d'autre chose que de goûter à ce que Dieu leur avait dit, de goûter, de manger. Et comme par hasard, c'est ce qu'on fait toujours, depuis que le monde est monde, on va faire ce qu'on nous demande de ne pas faire. Dites à un enfant, surtout je t'interdis d'aller là, vous allez voir. Moi, c'était un truc chez moi, mes parents me disaient, tu vas pas chez le voisin voler les poires. Et j'allais à la marotte à poires à chaque période où il fallait cultiver les poires. Parce qu'on m'avait dit, tu n'iras pas. Et dans le cœur de l'homme, il y a cette notion de désobéissance qui l'amène à chaque fois à faire le contraire de ce que Dieu lui demande de faire. Et que se passe-t-il à un moment donné ? Parce que tu as désobéi, le sol sera maudit à cause de toi. Et tu vas suer, mon gars, pour récupérer les fruits. Il y a comme une malédiction. Il y a une stérilité sur notre sol. Et sans que j'en revienne à notre propre vie, il peut y avoir, à cause du péché, à cause de notre désobéissance, une malédiction sur notre vie, sur notre vie professionnelle, sur notre vie de famille, sur notre vie spirituelle. C'est le péché qui engendre ça. C'est la désobéissance de l'homme qui engendre cela. Mais on va voir qu'il y a une solution. Parce que Dieu ne se satisfait pas de cette stérilité. La loi du royaume, c'est la fertilité, c'est la reproduction, c'est l'expansion. La loi du royaume, quand Jésus vient et prêche le royaume, il prêche la multiplication des pains, il prêche la multiplication des poissons, il prêche, mais il amène ces choses dans une réalité. Le royaume est le royaume de la multiplication du ciel qui descend sur la terre et qui se manifeste d'une manière concrète. Et donc, j'ai retrouvé ce passage que je vous ai lu il y a 2-3 semaines, mais comme vous êtes des auditeurs oublieux, vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu que chacun prenne garde à la manière dont il écoute, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est pour ça que j'ai posé la question par rapport à la prédication de la semaine dernière. Parce que Dieu inspire et met dans le cœur de vos proches des choses et vous devez écouter, nous devons écouter et nous arrêter sur ce qui est donné. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Et puis donc, j'ai un petit exemple de stérilité. Du sol, par exemple. Il y a le prophète Élisée qui vient de voir son maître Élie emporté dans le ciel, emmené dans le ciel. Et lui, il vient de prendre le manteau. Il a fendu le Jourdain en deux. Il est passé. Le premier miracle d'Élisée, c'est celui-là. Et il se retrouve à Jéricho. Et regardez ce que les gens de Jéricho sont en train de lui dire. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon. » En gros, ils sont en train de dire, « Notre ville, elle est sympa. » Bondu, c'est pas mal. Et si, c'est sympa comme cadre. Il y a des chevaux, vous voyez. Il y a des poupoules aussi. Vous avez dit, l'autre fois, j'ai rencontré des poules dans le coin. La ville est bien située, les maisons sont belles. Et à Bondu, il y a des belles maisons. On est d'accord? Et comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. C'est pas Dieu qui est en train de leur dire. Le pays est mauvais. C'est eux qui se rendent compte. Notre environnement est parfait. Mais on a un problème, prophète. On a un problème, c'est que quand on met nos haricots dans la terre, nos carottes, nos poireaux, etc., il se passe quelque chose. On ne produit pas ce qu'on devrait produire. Et notre terre est stérile. Regardez. Et le mot ici, c'est malade. Malade. Et alors il leur dit... Élisée, c'est quand même un drôle de personnage. Bon, il est inspiré par le Seigneur, mais il leur dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Moi, entre nous, le mec qui me dit ça, je me dis, et j'ai des notions de chimie, moi, et je peux vous dire que pour purifier de l'eau, je vais utiliser du chlore, je vais utiliser un adoucisseur, je vais utiliser un système de filtration. Je vais faire une station d'épuration. Allez, voilà. Donc, Élisée, lui, dit, on va bâtir une station d'épuration. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il lui apporte. Il lui apporte le sel. C'est une action du peuple de Jéricho qui prend conscience de sa stérilité et qui va faire confiance au prophète et qui va amener le plat neuf avec du sel. Et ils le lui apportèrent. Et là, il se passe un truc, qui est un truc que je ne comprends pas, je ne vous explique pas. Ce n'est pas expliqué, c'est un miracle divin. Il prend le sel. Il le jette dans la source et il dit, et ça va faire plaisir à François, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis. Et là, quand il dit j'assainis, il dit, je guéris la maladie de cette eau. J'amène la guérison sur cette eau. il n'en proviendra plus ni mort. Comme dans la Genèse. Il dit, ce qui a été proclamé dans la Genèse, je le guéris. Et il dit, ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies, guéries. Jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée, qu'Élisée avait prononcée. Comment Dieu apporte ici la guérison à la stérilité? Il y a deux choses que vous devez retenir, que nous allons retenir ensemble. Il dit « apporter et mettez ». Il y a ici deux verbes d'action, deux verbes de mouvement. Vous vous souvenez de ma petite poupoule réveillée? Qu'a fait réveillée? Elle a dit « c'est pas normal, ça fait un mois que l'œuf est là, j'ai pas encore de poussin ». Et elle dit, elle vient me voir, je dis, c'est normal, t'as pas été fécondé par le coq. Et il y a deux verbes d'action qui montrent l'importance de l'acte de tout un peuple face à la stérilité. Autrement dit, dans la résolution, dans la guérison divine, dans ce que Dieu veut faire, il y aura toujours une responsabilité de l'homme. L'homme qui revient vers Dieu, l'homme qui obéit à Dieu. Et nous aurons toujours une part d'action et de responsabilité dans ce que Dieu veut faire. Ne vous imaginez pas être comme Obstiné ou Fatalitas, son deuxième prénom, et de vous rester assis en attendant que les choses se passent. Il y aura toujours à un moment donné une prise de conscience que nous devons recevoir, avoir, pour que notre stérilité se change en fertilité. Cet acte demande une grande part de confiance pour obéir. La confiance, franchement, mettre de l'eau salée dans une source d'eau pour dire qu'elle devient pure, permettez-moi l'expression, mais ça va à l'encontre de toute règle de chimie, de physique. C'est contraire à ce que nous croyons, c'est contraire à ce que nous voyons. C'est contraire à ce que nous sommes. Et Dieu choisit souvent des choses contraires à ce que nous avons reçu, compris, fait déjà dans l'expérience du passé pour changer les choses. Et il y a quelque chose que nous devons saisir ici, nous, en tant que communauté et aussi en tant que personne. Si nous voulons voir les choses changer, il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question. Est-ce que je suis prêt à agir en fonction des règles de Dieu et de laisser mes propres règles tomber? Je peux vous le dire, c'est ancré, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est ancré dans notre mentalité. C'est là, c'est dans notre cœur et ça ne veut pas partir. Parce qu'on se dit tout le temps, oui Seigneur, je veux te voir guérir la stérilité, mais, il y a toujours le mais avec nous, mais je ferai en fonction de ce que je veux. Et il va falloir amener ces choses à l'obéissance. Dernièrement, il y a un frère qui m'a dit ça, c'est Benoît. Il m'a dit, pendant des années, j'ai entendu, il faut obéir, il faut obéir, il faut obéir. Et il a raison, il faut obéir à Dieu. Vous êtes d'accord? L'obéissance amène la bénédiction. Par contre, il m'a dit quelque chose après une réunion de prière. C'est deux, trois fois qu'il disait les choses. Les deux premières fois, j'avais pas trop capté. Mais il a dit quelque chose d'intéressant. Écoutez cet homme, c'est un homme sage. Vous l'aviez déjà remarqué peut-être. Il a dit, pour être obéissant, la première des choses que nous devons avoir, c'est la confiance. Parce que quand tu as confiance en quelqu'un, tu deviens obéissant. Qu'est-ce qu'a fait ce peuple? Il a eu confiance dans la voix de Dieu. Il a eu conscience, il a eu confiance dans ce que Dieu voulait faire. Il a dit, si Dieu a choisi que ce serait comme ça, on le fera comme ça. Et là, il y est allé, le peuple. Parce qu'il a eu confiance, il a obéi. Et l'obéissance a amené la guérison de la stérilité. Alors, le prophète dit, apportez-moi un plat neuf. C'est bizarre ça, hein, non? Il n'a pas dit, apporte, va dans ta cuisine et prends le premier plat qui vient. Vous entendez ça? Il n'a pas dit, apportez-moi un plat quelconque. Non, tu vas prendre un plat neuf. Alors j'ai pris le plus beau plat que nous avions à la maison. Je sais, on fera une quête à la fin. C'est ma plus belle soutasse. Je la chéris de tout mon cœur. Je ne l'ai jamais utilisée parce qu'elle est trop belle. Voilà, le peuple prend le plat neuf. Il n'a jamais servi, il n'a jamais été lavé, il n'est jamais passé au lave-vaisselle. D'accord ? Je vous le dis, il n'y avait pas de lave-vaisselle à l'époque, hein, mais je le mets à la sauce d'aujourd'hui. Ce qui explique une réalité spirituelle importante. L'Éternel ne donne pas vie et guérison à partir de l'ancien, avec du vieux. Et il dit, on ne coupe pas une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Sinon, cette nouvelle pièce, elle va emporter tout le reste de l'habit. Il dit, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que la vieille outre avec le vin jeune qui va fermenter, elle va rompre. Elle va se casser et le vin va être répandu. Et à Nicodème, qui était cet homme vieux comme moi, enseigné dans les Écritures comme moi. Bon, j'exagère un peu. Sage, comme moi, là je suis réel. Et il lui dit, hey, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Cet homme connaissait la Torah par cœur, il enseignait les autres. Et il dit à Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Et l'autre, il ne comprend pas. Il dit, mais comment je vais retourner dans le ventre de ma mère? Elle n'existe plus déjà. Je ne peux pas. Vous voyez, le problème de l'homme, c'est son incapacité à permettre à ce que le nouveau de Dieu donne la vie à la stérilité. C'est que nous sommes incapables de comprendre cela. Et Dieu n'utilise jamais du vieux. Mais il prendra le nouveau pour guérir. Notre problème vient lorsque nous voulons passer de la stérilité à la fertilité, de la mort à la vie, en gardant ce qui est ancien. Hey, regardez-moi, j'ai de l'expérience. Regardez-moi, j'ai plein d'expériences. J'ai déjà vu comment on faisait là-bas. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai plein d'œuvres derrière moi. La salle ici ne serait pas assez grande pour renfermer tout ce que j'ai déjà accompli au nom du Seigneur. On s'obstine. On est obstiné fatalitas. On s'obstine et on croit que le fruit va venir. Mais l'apôtre Paul dira, je voudrais qu'on le lise ensemble. Vous voyez tous là? Parce que Paul, c'était un Nicodème puissance 10. C'était un homme qui était bercé dans les Écritures. C'était un homme qui avait été enseigné dans les Écritures. C'est un homme qui avait une connaissance, on le voit, ses écrits sont... Et la révélation qu'il a, c'est extraordinaire quand même. C'est quand même l'auteur, entre guillemets, des épîtres pastorales et des épîtres doctrinales du Nouveau Testament. Regardez ce qu'il dit. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses que j'ai faites dans le passé... » Toute ma connaissance, tout ce que j'ai pu faire, toute mon expérience, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Mon frère, ma sœur, mon ami, si tu veux du nouveau, tu dois renoncer à tout ce qui est ancien. À tout ce que tu as pu faire, à tout ce que tu auras pu étudier, à tout ce que tu auras pu saisir, comprendre, même réussir dans ta vie, tu dois tout considérer comme une perte afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice. On le dit tout le temps. J'en discutais hier avec des amis. Notre problème, vous avez deux types de personnes en général, que vous rencontrez dans les églises. Je suis sauvé par grâce. Je n'ai plus rien à faire. Je vais m'asseoir et couver mon œuf. Et puis, il y a des gens qui disent, un peu comme réveillés. C'est le problème des réveillés, ça. Mais c'est normal que les réveillés soient comme ça. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Il faut accomplir, il faut accomplir. Parce qu'on se bat sur la foi sur les œuvres est morte. Mais n'y a-t-il pas la pensée de Dieu par rapport à tout cela? Si tu fais rien, c'est un problème. Mais si tu fais les choses pour réussir, ou pour être reconnu, ou pour te donner une gloire, c'est un problème. Mais si les œuvres que tu as préparées d'avance, que Dieu a préparées d'avance pour toi, viennent dans ton cœur et que tu les accomplis, c'est là où tu deviens comme l'apôtre Paul. Je souhaite, comme dit l'apôtre Paul, être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais à celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui en sa mort. Tu ne peux pas être nouveau sans mourir avant. Tu ne peux pas être un plat neuf dans lequel on mettra du sel qui guérira la stérilité. Si ce plat neuf n'est pas mort, il doit passer à la cuisson le plat. Il doit passer au four. Il doit être réduit à rien. Il doit être amené dans la forme que Dieu lui a donnée. Et c'est cela que l'apôtre Paul est en train de dire. Tu dois être conforme en Christ en sa mort. Je suis convaincu, mais certainement convaincu, que nous devons passer par la mort à nous-mêmes, la mort à notre conception des choses, la mort à notre moi, la mort à ce que je suis, pour que Christ puisse vivre en moi. Tu ne peux pas prendre un vase et dire « remplis-le » si tu n'es pas même vidé de toi-même. Et c'est ce que Dieu est en train de dire, et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je regarde ça comme de la boue, je l'enlève de ma vie, peu importe, je me dénude complètement, afin que Christ vienne en moi. Et devienne celui qui est le sens de ma vie, qui est l'objet de mes louanges, l'objet de mes actes, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Pour que la stérilité soit guérie, il faut un plat neuf, il faut un nouveau cœur, une nouveau cœur, je suis désolé, ça c'est pour Nathalie, elle n'aime pas les fautes, hein. Je le dis avant qu'elle me le dise. Une nouvelle vie, une nouvelle mentalité. Waouh. Nouveau. Nouveau et nouveau. La question que vous devez vous poser aujourd'hui, mais je suis né nouveau, ok. Mais il y a peut-être de l'ancien encore qui doit être réglé. Le sel dans le plat. Il dit, mettez-y du sel. Alors je reprends un truc que j'ai vu dans une vidéo la dernière fois. Mais qui, le gars, le prédicateur, ne prêchait pas là-dessus, sur le message de ce matin. Il prêchait sur autre chose. Néanmoins, j'ai pris du sel. Il dit, mettez-y du sel. Je n'ose pas redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Si je le dis, j'ai l'autorisation de dire ce que j'ai dit la semaine dernière. Comme dirait Marise, ce n'est pas une expression biblique. Celui qui n'a pas de sel n'a pas de sou. Donc, devant vous, je suis en train de m'appauvrir sur la parole de Marise. Et j'ai l'impression qu'on ne va plus avoir grand-chose à la fin. Donc en fait, le prophète est en train de dire, mettez-y du sel. Donc vous imaginez le plat neuf, et vous voyez du sel. Il est de quelle couleur, André, le sel?
Blanc.
Il est blanc. Il est de quelle couleur, Béni, le sel? Blanc, est-ce qu'il y a des impuretés dedans? Est-ce que vous voyez des choses qui sont noires ou... Non. Ce sel, c'est pas du sel de Guérande. Je vais purifier mon frère. Non. Est-ce qu'il est comment ce sel, François? Il est beau? Il est immaculé? Il est beau, hein? J'ai eu l'occasion de visiter les marais salants de Guérande. Guérande, c'était le joueur de foot, des formations. Et j'ai vu comment ils faisaient, c'est vraiment très beau. En fait, ils amènent ça sur des airs, et l'évaporation de l'eau de mer donc de l'eau de la mer, fait en sorte que le sel arrive en surface comme ça. Et il racle délicatement. Ce sel, il est beau, mais il demande beaucoup de travail. Et puis, il y a un autre sel. Il y a du sel aussi qu'on peut aller chercher dans les mines de sel. En Allemagne, il y en a beaucoup. Vous connaissez ça ? Il est comment le sel ? Est-ce que tu vois des choses particulières ? Il est gris. Bénilde, est-ce que vous voyez des choses dedans ? Vous savez pourquoi ça ? Parce que là-bas, vous avez du NaCl, du chlorure de sodium. C'est ce qui est le sel. Là, vous avez du sel, chlorure de sodium, chlorure de potassium, enfin d'autres sels. Il n'y a pas que du chlorure de sodium. Et puis, le problème, c'est que dans les mines de sel, il y a aussi plein d'impuretés. Vous savez ce que c'est, les petits trucs noirs là qu'ont vu les deux sœurs ? Ce sont des métaux. Il y a des métaux avec ça. Là, il y a de la ferraille, il y a de la roche, enfin, il y a plein de choses. Maintenant, attendez, je me trompe peut-être, on va avancer. Voilà. Le sel dans la Bible est un agent de purification. En Lévitique chapitre 2, verset 13, vous verrez que pour être agréable au Seigneur, les sacrifices qu'on amenait au Seigneur devaient être amenés salés. On salait abondamment parce que ça plaisait à l'Éternel. C'est-à-dire que lorsqu'on amène quelque chose au Seigneur, ça doit être purifié. Et nous savons que nous ne pouvons pas purifier autrement que par le sang de l'agneau. Jésus dit, la parole de Dieu me dit que c'est par le sang de l'agneau, par le sang qui a coulé à la croix, que je suis lavé et purifié de mes péchés. C'est pour ça que c'est important, lorsque je viens au culte le dimanche matin, je viens pour honorer le Seigneur, je me prépare toujours. Et si, par exemple, j'ai dit à ma femme de se taire que ce n'était pas juste, je demande pardon au Seigneur. Lorsque j'ai fait quelque chose, je demande pardon au Seigneur. Parce que tu ne peux pas arriver devant Dieu sans être purifié. C'est pour ça qu'il est écrit ça dans le livre de Lévitique. La deuxième, c'est que lorsque des enfants étaient nouveau-nés, dans Ézéchiel, on voit cela, c'est une coutume. On prenait le nouveau-né et que faisions-nous à l'époque ? On prenait du sel et on frottait l'enfant avec du sel. C'est un truc de... Hein, bon, c'est discutable, je l'accorde. Mais c'est comme s'il y avait comme une notion de purification. Et qu'est-ce que ça me parle, ça ? Ça veut dire que quand quelqu'un naît de nouveau dans l'Église, quand quelqu'un vient au Seigneur, notre responsabilité, c'est de prendre soin de cette personne et de la purifier. Remarquez le bébé nouveau-né, est-ce qu'il prend le sel, est-ce qu'il se frotte lui-même ? Non. C'est que nous avons une responsabilité lorsqu'une personne vient au Seigneur. C'est de la prendre avec nous et de faire tout ce dont on a besoin pour couper le cordon. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qu'on fait pour un nouveau-né. Et là, on doit le frotter avec du sel. On doit l'amener à la purification. Et en 2 Rois 2, c'est le sel qui est jeté dans la source qui purifie l'eau de la rivière qui coule à Jéricho et qui va amener la purification de la terre. Et la terre va devenir fertile. Waouh ! D'ailleurs, on en a fait une superstition. Faites pas ça, hein. Vous savez que vous pouvez aller sur Internet et acheter du sel qu'on jette devant la maison. On protège. Vous savez, c'est une superstition. Faites pas ça, surtout, hein. C'est de la sorcellerie. C'est grave. Le sel ne peut être efficace que s'il est pur. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes comme ce sel-là. Je veux que vous soyez ce sel-là. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Et s'il a perdu sa saveur, que dit Jésus ? Il est bon à être jeté. T'as baissé la tête, j'ai vu. Il est bon à être jeté, à être foulé aux pieds. Il devient du sel de déneigement. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes appelés à être ce sel-là. Nous sommes appelés à être ce sel. Nous sommes appelés à être un peuple qui allons être jetés dans les eaux de la terre de ce pays pour purifier ce pays et le rendre fertile. Maintenant, vous allez me dire quel type de sel je suis en tant que personne. Qui considère qu'il est un sel comme ça ici? Il n'ose pas lever la main. Parce qu'en réalité, personne n'ose lever la main parce qu'on ne l'est pas. Parce que si on l'était, il y a longtemps qu'on verrait des centaines de milliers de conversions dans notre pays. Il y a longtemps que le royaume de Dieu se manifesterait d'une manière puissante. Il y a longtemps que les choses changeraient dans notre pays. Je sais, je vous mets un fardeau sur les épaules, mais c'est comme ça. Quel type de sel suis-je en tant que personne? Et maintenant, on va faire un petit truc. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Mais vous n'avez pas de mauvaises pensées avec moi. C'est mon sel à moi, ça. C'est de les mauvaises pensées de Bruno. D'accord? Mais vous n'avez jamais de mauvaises pensées. Ce sont les adultères. Bruno n'est pas adultère. Quand je parle d'adultère, ce n'est pas simplement tromper sa femme. C'est que, y a-t-il des choses qui m'intéressent plus que le Seigneur? Y a-t-il des choses, des faux dieux dans ma vie? Y a-t-il des choses qui prennent la place de Dieu dans ma vie? Et l'Éternel dit, ce peuple adultère, non pas qu'ils partent avec d'autres femmes, mais c'est parce qu'ils ont trompé le Seigneur. Mais vous n'êtes pas adultère, n'est-ce pas? Les impudicités. Vous savez, toutes ces paroles qui sortent de notre bouche et qui ne glorifient pas Dieu. Tous ces gestes que nous faisons qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais vous n'êtes pas impudiques. Les meurtres. Dieu merci, il n'y a pas de meurtrier ici. Mais ne tuons-nous pas les autres par nos paroles? Est-ce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un à coup de parole? C'est pourquoi Jésus dira, celui qui dira cinglé à son frère, t'es un taré garçon, raca, c'est un peu le sens, le mot, il mérite d'être jeté dans le feu de la géhenne. Oui, on peut tuer avec nos paroles. On a été blessé, peut-être tué dans cette certaine partie de notre cœur par des paroles des autres. Mais Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Alors que font ces paroles mauvaises qui blessent, qui tuent autour de vous et en vous? Les vols. Mais vous n'êtes pas voleurs, hein. Est-ce qu'on ne vole pas l'argent du Seigneur des fois? Je vous pose la question. Est-ce qu'on ne vole pas notre patron? Les cupides, les cupidités. Oh, mon compte en banque. J'ai 50 000 euros sur mon compte en banque. Je voudrais en avoir plus. Comment vais-je pouvoir placer mon argent cette année alors que ton voisin meurt de faim? Les méchancetés. Mais vous n'êtes pas méchant, n'est-ce pas? Moi non plus. La fraude. Mais je ne fraude pas. Ben non. Notre première réaction, j'ai entendu l'autre fois le témoignage de Jean-Raymond avec l'histoire de l'accident de la voiture. On est les premiers à frauder en France. Le dérèglement. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le mets quand même. Le regard envieux, je vais m'arrêter parce que je vois que les gens sont en train de s'affaisser. Le regard envieux, mais on n'est pas envieux, hein. Hein? On n'est pas envieux sur les autres. La calomnie, bah on ne calomnie jamais, on est parfait. Je ne dis jamais du mal de mon patron, je ne dis jamais du mal de mon frère et ma sœur dans l'église. Moi, ça m'arrive jamais, vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'arrive jamais. L'orgueil, bah, je suis quelqu'un, il n'y a pas plus humble que moi, mes frères et mes sœurs. C'est dommage, je n'ai pas filmé, parce que là, ça pourrait être interprété par l'enregistrement. Donc, je le dis dans l'enregistrement, je suis en train de mettre du sel, disant que je suis un homme orgueilleux, en réalité. Et la folie. Bon, c'est vrai, c'est pas un grain chez moi. Allez. Toutes ces choses mauvaises, Jésus dit, le Seigneur dit, toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Vous êtes le sel de la terre. Maintenant, à quoi ressemble le sel? Comment tu le vois, toi? Il est gris clair, hein, maintenant. Ouais. À votre avis. À votre avis. Si ce sel-là est arrivé dans les mains d'Élisée, est-ce qu'il aurait purifié l'eau de Jéricho? À votre avis, si ce sel-là est utilisé à Bondu, dans le nord de la France, est-ce qu'il va purifier les eaux de notre pays? À votre avis, oh, ça y est, il est tout juste bon à être jeté au sol. Et je t'ai pas fait mal, ma puce. Il est tout juste bon à être jeté. Oh, je suis désolé, Martine, des boulons pour demain. Il est tout juste bon à être jeté et à être foulé aux pieds. Rien ne peut amener la guérison de la stérilité si toi-même tu ne te purifies pas. Et là, il y a vraiment un problème et quelque chose que nous devons saisir. Pourquoi? Parce que nous sommes là en nous disant, je vais au culte tous les dimanches matins, je prie tous les jours, je lis ma Bible. Enfin, quand c'est le cas. Parce qu'en toute honnêteté, on n'est pas comme ça. J'essaye de faire plein de bonnes choses, j'ai des œuvres, etc., etc. Mais au fond de notre cœur, il y aura toujours cette graine d'impureté qui est là. Et nous n'avons qu'une seule chose à faire, reconnaître à un moment donné que nous ne sommes pas le sel de la terre. Parce que nous ne sommes pas obstinés. Parce que nous ne sommes pas, comment elle s'appelait la deuxième ? Inquiète. Nous sommes qui ? Nous sommes réveillés. Moi, j'ai décidé d'être réveillé. J'ai décidé d'être non pas inquiète, non pas obstinée pour devenir au pot, mais je suis celle qui est devenue, je suis une petite poule qui veut devenir réveillée. Et le réveil, c'est quoi? C'est lorsque tu comprends, que tu saisis qu'il y a encore toutes ces choses au fond de ton cœur qui sortent régulièrement et tu dois régler ça. Et comment fais-tu cela? Maintenant, j'ai mis le poids. Mais c'est le poids du péché qui est là. C'est pas moi qui le mets. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la malédiction. Si tu désobéis, je demanderai la malédiction, dit Deutéronome. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. C'est la guérison de la stérilité. C'est Dieu amène la vie. Et comment nous devons amener ces choses? Ce sel-là. Non, celui-là. Je crois que Dieu veut le purifier dans les temps de la fin. Il veut amener un sel dans le plat nouveau. Un sel purifié. Et il y a toutes des opérations physico-chimiques qu'on peut faire pour amener à la pureté. Filtration. On peut passer même dans un truc qui va capter les métaux. Vous voyez, il y a toute une œuvre que Dieu veut faire. La première des choses que tu dois comprendre, c'est quel sel je suis. Est-ce que je suis le sel purifié? Tant mieux. Est-ce que il y a encore quelques grains d'impureté? Travaille. Si tu vois que ta vie est uniquement du sel de déneigement, pose-toi la question. Et dis, il faut que je rattrape le coup maintenant. Amène toutes ces choses au Seigneur. Amène ton cœur, parce que Jésus est en train de dire, ça je peux le purifier, personne ne pourra purifier. Tu auras beau faire ce que tu veux, tu auras beau accomplir les plus belles œuvres que tu peux, tu pourras faire des choses extraordinaires. Si tu ne règles pas ça, tu resteras stérile. Amen. Amène ton cœur au Seigneur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent toutes ces choses mauvaises. Je ne sais pas combien on sera dimanche prochain. Parce que ça, peut-être que ça vous blesse, ce que je vous dis. Peut-être que ça travaille votre cœur, vous dites, oh, c'est trop dur pour moi. À un moment donné, il y a des gens qui suivaient Jésus, qui ont dit, c'est trop dur, on arrête. Mais j'ai la conviction que c'est là où Dieu veut nous amener. Et ma femme, dernièrement, on est allé au restaurant. Ça nous arrive de passer un bon petit moment ensemble. Et je lui ai dit ceci. Je me dis, tu sais, je vois que ton cœur change, Bruno. Et je lui ai dit ceci. Aujourd'hui, si je devais rester avec toi et les enfants à prier tous les jours à la maison et à honorer le Seigneur, je suis prêt à tout abandonner pour obéir au Seigneur, pour faire sa volonté, pour amener devant le Seigneur un peuple qui soit purifié, un peuple qui soit sanctifié, un peuple qui marche avec Dieu, un peuple dont le cœur sera nouveau, un peuple dont le sel qui sera répandu amènera la guérison. Parce qu'en réalité, nous pensons souvent que c'est le nombre qui fait la puissance d'une église. Vous savez, encore dernièrement, dans un séminaire prophétique, le prophète m'a posé la question à table, il m'a dit, vous êtes combien ? Mais je lui ai dit, je m'en fous, ça m'importe peu, on serait trois, ensemble, à marcher avec le Seigneur. Je m'en fous du nombre, parce que Dieu peut renverser. Il peut changer un pays avec trois personnes. C'est lui qui est Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le Roi des Rois. Peu importe le nombre où nous serons. Mais où nous serons un peuple qui, avec un cœur nouveau, un peuple avec le sel purifié. Et là, la main de Dieu prendra ce sel et elle dira, oui, terre de Bondue, sois purifiée. Oui, peuple du nord de la France et de Navarre, sois purifiée. Oui, peuple de France, pourquoi pas, soit purifié, parce que c'est la volonté de Dieu d'utiliser du sel pur pour amener la guérison dans les nations. Et aujourd'hui, l'Église doit saisir cela, mes frères et mes sœurs. Nous devons saisir que notre vie doit être changée, que nous devons mettre à mort notre expérience, mettre à mort notre éducation, mettre à mort sur la croix crucifiée tout ce que nous avons pu emmagasiner pour être un peuple nouveau dont le cœur sera transformé, libéré et pour marcher avec Dieu. Et là, j'espère vivre assez vieux pour voir ça. Si le sel perd sa saveur, il est juste bon à être jeté sur le carrelage de Betsalel et être foulé par les hommes. Faites attention en sortant, ça va glisser. Que Dieu vous bénisse.